Et c'est vrai que la Bible est un apprentissage de cette liberté intérieure, c'est-à-dire tout à fait vulnérable devant Dieu et devant les autres. Être libre, c'est être très vulnérable. Et comme généralement nous avons peur d'être blessés, nous n'aimons pas être vulnérables, et donc nous nous blindons, nous nous garantissons, parce que nous avons peur. Et quand on se rend compte que la Bible est ce chemin, on peut, à chaque page, laisser tomber ses peurs. Je faisais encore la réflexion tout à l'heure avec les psaumes. Nous récitons des psaumes, comme ce matin, et il y a parfois de la dynamite dans ces psaumes. Mais est-ce que nous nous laissons éclater par cette dynamite? Est-ce que nous nous laissons poser des questions? Il y a de la violence, et cette violence nous dit quelle est notre violence intérieure. Et il y a d'abord à nous laisser sauver de cette violence en aimant le plus profond de nous-mêmes, en rejoignant le plus profond de nous-mêmes. Cet endroit où nous sommes libres parce que Dieu y est présent. Et on le tient le plus possible à l'écart, parce que Dieu est toujours dangereux. Enfin, les images que nous avons de Dieu sont dangereuses. Dieu n'est pas dangereux, mais les images que nous en avons le sont. Maintenant, je fais une parenthèse, parce que j'ai oublié de vous le signaler hier. C'est que il y aura de nouveau une petite répétition de chant vers 4h30, c'est ça, 4h15, 4h30, à la publique. Et donc, vous voyez, notre histoire depuis le début, depuis Adam et Ève, et Caïn et Abel, et Noé et ses fils, et la tour de Babel, ce sont toujours notre histoire, c'est toujours notre histoire, toujours, toujours, toujours. On ne va jamais quitter ces 11 premiers chapitres. Mais ils vont s'approfondir depuis depuis le chapitre 12e de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et c'est un très long parcours. Et nous sommes déjà 85 ans, là, ou 100 ans, hein, avec Abraham. Alors, on m'interrogeait tout à l'heure sur le sens de ces chiffres. Il ne faut pas prendre toujours ces chiffres de manière tout à fait allégorique. C'est-à-dire, c'est vrai, il y a certains chiffres les premiers chiffres qui ont une symbolique en elle-même. 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusque 20 ou 40. Très bien. Et il y a deux systèmes, comme je vous ai déjà dit. Mais quand vous avez des chiffres comme ça qui sont impossibles, une grossesse à 95 ans, des choses pareilles, ça veut dire que l'existence a du poids et qu'il faut beaucoup de temps pour réaliser certaines choses. Il ne faut pas s'étonner que quelqu'un accède à la liberté au moment de sa mort, ou juste avant sa mort, à 94 ou 95 ans. C'est bien possible. Le problème est de savoir jusqu'à quel point nous arrivons-nous à vivre cette liberté et permettons-nous aux autres de la vivre. Et ce n'est pas si simple que cela, parce que nos esclavages, nous en avons beaucoup, beaucoup, et nous aimons beaucoup mieux nos esclavages que notre liberté. Nos esclavages, nous les imposons souvent aux autres. Et c'est pas pour rien qu'il y ait constamment question d'esclaves dans la Bible. Ça fait partie de nous aussi. Alors, le chemin d'Abraham que nous avons commencé, que j'espère nous n'achèverons qu'à la fin de notre existence. Le chemin d'Abraham commence par quitte. Et comme le faisaient déjà remarquer les pères de l'Église, et comme on le retrouve davantage aujourd'hui, la vie d'Abraham est une suite de réalités que l'on quitte, et les réalités les plus profondes auxquelles on est le plus attaché. Et c'est pourquoi nos attachements sont toujours des esclavages. Alors, il est très important de découvrir quels sont nos attachements pour voir comment nous pouvons, comme Abraham va le faire, y mettre le couteau. On lui demande d'abord, qu'est-ce qu'il lui demande d'abord? Le Seigneur. Et je dis le Seigneur, nous le considérons évidemment, quand nous lisons dans la Bible, comme un partenaire qui est loin, qui est très haut, mais le Seigneur est au fond de chacun d'entre nous. Donc c'est une perception que nous avons du Seigneur, et quand on dit Yahvé, que je traduis comme les Juifs le Seigneur, je préfère cela, ou bien écrire le tétragramme, que de dire Yahvé, parce que Yahvé n'a aucune consistance dans aucune langue, pas plus que Jéhovah. Donc c'est un indicatif. Et le terme, vous voyez, Yahvé dans vos Bibles, ça signifie toujours le Seigneur suivant sa personnalité propre. Et cette personnalité est toujours la réalité de l'amour. Nous ne savons pas ce que c'est que l'amour. Lui, il le sait. Nous n'avons pas inventé l'amour, dit Saint Jean, c'est lui qui l'a inventé. Et donc, quand on approche Dieu selon sa réalité d'amour, qui n'est pas du tout l'amour mesquin que nous connaissons, c'est-à-dire toujours l'amour possessif, eh bien, la Bible parle de Yahvé, le Seigneur. Quand il dit Dieu, que l'on traduit généralement par Elohim, qui peut être à la fois un pluriel ou un singulier, Dieux, avec un X, ou bien le Dieu, la divinité, c'est un nom commun. C'est ce qu'il y a de divin, c'est-à-dire ce qui nous dépasse. Mais ce n'est pas encore la personnalité de Dieu. Et la plupart du temps, nous en restons là. Nous en restons au divin dans notre vie.
Comme l'émission au nom de Dieu.
Oui. Nom de Dieu, oui, au pluriel. Et c'est vrai. Nom de Dieu. Quelle est l'image que nous avons de Dieu? Or, nous avons des images de Dieu. Nous ne pouvons pas faire sans images. Et si on ne peut pas représenter des images à l'extérieur, on se les représente à l'intérieur. Et les images de Dieu, essayons de les regarder d'un peu près, ces images de Dieu, la plupart du temps, nous ressemblent. Elles nous ressemblent. Et c'est normal. Dieu créa l'homme à son image. Mais est-ce que nous ressemblons à Dieu? Ça, c'est une autre paire de manches. Nous le faisons toujours à notre image, comme nous faisons les autres à notre image. C'est normal, nous partons de nous. Donc il y a des coupures à réaliser en nous, constamment, à réaliser nous-mêmes en nous. Les gens demandent souvent, mais comment il faut faire? Je dis ça, c'est vraiment à vous de l'inventer. Parce que tout ce que je pourrais vous dire, comment il faut faire, ce serait moi qui le ferais en vous. Et ça ne vous servirait de rien. C'est vous qui devez trouver en vous-même l'initiative et la capacité, parce qu'elle y est, puisqu'il y a une image de Dieu, elle y est. La capacité de vous détacher d'un certain nombre de choses auxquelles vous êtes attaché pour être vous-même, et donc pour découvrir Dieu. Il n'y a qu'un « je » qui puisse découvrir un « tu ». Et vous voyez, toute cette histoire de, utilisons le terme de sacrifice successif, mais en comprenant bien le terme sacrifice, comme il est piégé, il faut l'employer avec circonspection, mais de ces étapes de détachement, de libération progressive que l'histoire d'Abraham nous exprime. Quitte, couper le cordon ombilical, quitte ce qui te rattache à ton pays, à ta culture. Elle n'est pas la première culture, elle n'est pas la culture essentielle. Ton pays n'est pas le premier dans le monde, quoique chaque homme politique doit toujours dire que son pays est le premier. Tout pays est toujours premier dans quelque chose, heureusement.
Surtout en France.
Je ne me prononcerai pas sur ce sujet. Il n'est
n'est pas dans le texte.
Ce n'est que le tiers de l'auditoire qui est français. Je me limite.
Que veux-tu?
Chasse-moi de nous l'étranger.
Les apôtres se demandaient toujours qui est le plus grand. Hein. Et Jésus dit le plus grand, c'est le plus petit. Maintenant, le plus petit va se glorifier d'être le plus petit, il devient le plus grand. On n'en sort pas, hein. On n'en sort pas. Alors, première chose à faire, quitter le pays, quitter la culture, donc quitter son environnement, quitte ton pays, quitte ta parenté. Parenté, c'est très difficile à quitter cela. Quand on dit parenté, bien sûr, on songe à famille, et c'est exact. Il y a un détachement à réaliser par rapport à sa famille, mais ça signifie aussi les amis, etc., tous ceux qui nous entourent, et au fond, jusqu'à un certain point, dont nous avons besoin. Toujours ce besoin. Nous utilisons tellement souvent les autres comme une piqûre de vitamine, comme un comprimé d'aspirine. C'est très souvent, c'est comme ça. Hein. On utilise l'autre, quand on a besoin. Et quand il n'est pas là, on découvre qu'on a besoin. Grande grâce. On découvre qu'on a besoin. Donc on peut prendre distance par rapport à son besoin. Jusque-là, on était esclave de son besoin. Maintenant, on peut prendre distance. Et on fait un pas dans la foi. Et alors, la maison de ton père. La maison de ton père, c'est pas seulement le papa et la maman et quitter le domicile familial pour aller prendre un coton ville. Non, c'est pas uniquement ça. Parce que notre père, il vit aussi en nous, hein. Notre mère, notre père, notre mère, etc. Ces liens sont profondément enracinés en nous. Et ils sont utiles puisque ils nous mènent jusque-là, ils nous mènent jusqu'à cette capacité de les quitter. Et en même temps, il faut prendre distance par rapport à eux. Précisément pour acquérir cette personnalité unique qui est la manière unique dont Dieu peut se révéler en nous. Non pas seulement à nous, mais en nous. Et dont le monde a besoin. Ça, c'est l'histoire d'Abraham. Puis, Abraham va, peu importe de quelle manière, on a vu que ce n'était pas tout à fait la chose essentielle, va se détacher de sa femme en disant « c'est ma sœur ». Et déjà, les pères de l'Église faisaient attention à ce texte, et aujourd'hui aussi, on met davantage l'accent sur le nom fusionnel qu'il y a chez Abraham. Prendre sa femme ou la recevoir comme sa sœur, c'est pas exactement la même chose. Bien sûr. C'est-à-dire, c'est d'avoir la même origine, mais en même temps, c'est une distinction. Le frère et la sœur sont, dans un certain sens, séparés. Si le frère et la sœur se mettent à vivre ensemble, il y a là une sorte de vouloir rentrer dans le sein maternel, et de nouveau retrouver la fusion, au lieu d'arriver à la distinction. Et l'amour dans un respect total de l'autre. Et donc, il y a dans cette réflexion dit « Je te prie, tu es ma sœur », et il y a, et c'est noté, notamment c'est intéressant de voir justement comment les femmes lisent cela. Et heureusement, aujourd'hui, il y en a pas mal qui écrivent à ce sujet-là. Et donc, voir un peu, tiens, comment elles lisent l'histoire de Sarah, l'histoire des femmes. Et vous avez par exemple des gens qui vous disent, comme ici j'ai un petit livre de Christiane Méroz, et qui l'intitule « Des femmes libres ». Sarah, Agar, Rebecca, Rachel, Léa. Des femmes libres. Donc c'est une écriture féministe, mais qui est intéressante parce qu'elle nous montre des choses que d'habitude nous ne lisons pas. Nous refusons peut-être de voir. Ce passage est étonnant, dit-elle, à propos de cette histoire du pharaon. Ce passage est étonnant par le rôle qu'y joue Sarai. Selon le texte biblique, elle garde le silence du début à la fin. Mais dans son cœur de femme, elle sait que leur couple est appelé à un destin dont elle ne peut pas se désolidariser. Destin du couple, hein ? La promesse de Dieu. Ainsi l'étrange, nous dirions aujourd'hui la révoltante, demande qui lui est faite de devenir une femme cadeau pour Pharaon, représente pour Sarai un tournant décisif, le moment de faire un choix existentiel. En silence, elle accepte de faire passer le bien de son mari avant le sien. Sans invoquer sa liberté, sa dignité de femme et d'épouse, elle se trouve par son propre choix, soudain, responsable de la vie de son mari et de la descendance promise par Dieu. Question de vie ou de mort. En choisissant de sauvegarder la vie du couple, tout en la mettant en jeu, il y a un risque, exactement comme pour Abraham, avec Isaac, elle entre totalement dans le plan divin, et la beauté de Sarai, qui aurait pu être source d'ambiguïté, devient par sa bonté source de vie. En acceptant tacitement de devenir la sœur d'Abraham, Sarai se situe résolument par rapport à son mari, comme un vis-à-vis dans toute la richesse créatrice de son altérité et de sa différence. Silencieusement, mais librement, elle prend la place d'Abraham. Tous les risques, toutes les humiliations, et non les moindres, voilà sa part. À l'exemple du serviteur souffrant d'Isaïe 53, elle s'engage sur le chemin d'un choix que nous appellerons un choix messianique. Lié à la trajectoire du Messie. En effet, l'audace de son amour et sa compassion signifie pour elle une nouvelle façon de vivre, d'exister. Elle accède au profond de sa vie. Elle n'est plus seulement l'ombre de son mari, celle qui le suit sans dire mot. Elle est en vérité la femme, celle par qui l'autre peut vivre. En mettant en jeu sa vie et la vie du couple, elle révèle que l'un n'existe pas sans l'autre, ni sans se donner à l'autre. Et d'ailleurs, vous aurez la même chose, et elle insiste là-dessus aussi un peu par après, lorsque elle, Sarai, dit à Abraham, « Va vers Agar », il le fait également, comme elle lui a dit. Et il lui obéit comme il obéit à Dieu. Il fit ce qu'elle lui avait dit. Et donc, vous voyez, elle réfléchit autrement sur les textes que la manière dont nous avons eu l'habitude de réfléchir. Avec la naissance d'Ismaël, nous assistons à la seconde tentative humaine d'Abraham et de Sarai pour réaliser la promesse divine, nous l'avons vu. Une fois de plus, ce n'est pas la solution de Dieu. Il faut encore que celui-ci intervienne pour que Sarai, devenue alors Sarah, elle a changé d'identité, elle est devenue autre, elle a découvert sa véritable réalité, non pas seulement vis-à-vis d'Abraham, mais pour le monde entier, elle devient un être vivant pour tout un chacun, et pas seulement pour Abraham, mais ce geste qu'elle a pu faire vis-à-vis d'Abraham l'a libérée pour être disponible à tous. Devenue alors Sarah, donne enfin un fils à Abraham, qui a également changé de nom. Et donc le changement de nom montre qu'il y a eu une accession de l'un et de l'autre à une réalité plus profonde de leur être, qui leur est donnée, car le nom est donné par Dieu. Il faut que tous deux soient marqués dans leur chair par la circoncision et la maternité pour que puisse réaliser la parole de Dieu. Devenus tour à tour responsables l'un de l'autre, Sarah et Abraham nous indiquent le chemin d'une spiritualité du choix qui, s'il implique un renoncement à soi, ne peut jamais être réduit à une simple soumission au désir de l'autre. Ça passe par le désir de l'autre, mais le désir de l'autre qui devient la réalité profonde du couple. C'est cela où on trouve un inattaquable, un insurpassable qui est Dieu. Parce qu'ils ont su veiller sur cette part d'eux-mêmes, qui les dépasse, et que la Bible appelle l'image de Dieu, parce qu'ils ont su garder vivante en eux la parole de Dieu, parce qu'ils ont respecté en l'autre son altérité et sa différence, parce qu'ils ont gardé leur couple en dialogue avec Dieu et l'histoire, Sarah et Abraham deviennent les parents de l'enfant de la promesse. Sinon, on peut devenir parent d'un enfant anonyme qui devra refaire toute la trajectoire, mais l'enfant de la promesse, c'est l'enfant dans lequel Dieu s'engage. Et enfin, en fait, c'est à cela que doivent c'est à cette situation que doit accéder tout enfant aussi. Mais il doit l'accéder dans la mesure où le papa et la maman peuvent être au service de cette accession, c'est-à-dire de l'engendrement de cette liberté. À l'origine du peuple de Dieu, nous trouvons donc une femme et un homme qui osent faire des choix personnels et messianiques, relevant d'un comportement autonome. Pour que s'accomplisse l'œuvre de Dieu, chacun poursuit son propre chemin, mais c'est ensemble qu'il le réalise. Qu'ils la réalisent. Par leurs expériences de vie, nous voyons émerger à travers deux personnalités en vis-à-vis une collaboration pour le bien et pour la vie. Le respect du mystère de l'autre permet un dialogue créateur dans lequel chacun peut être pleinement lui-même dans sa relation à Dieu, à l'autre et aux autres. La fidélité à un choix de vie personnel sauve du risque de s'enliser dans un lien où l'un n'existe que par et pour l'autre, c'est-à-dire où l'autre est un moyen. La disponibilité et la compassion vraie ne doivent pas se transformer en tyrannie envers soi-même, ce qui ne reviendrait qu'à détruire sa propre personnalité sans profit pour autrui. Au contraire, elles doivent toujours être épiphanies, révélation de la présence en soi de l'image de Dieu. Et c'est une lecture qui est intéressante, parce qu'elle nous permet de voir, de tracer un fil à l'intérieur de cette histoire d'Abraham, qui montre comment Dieu accède à travers la vie d'un homme à une véritable présence reconnue. Et je crois que c'est l'intérêt des lectures féministes et aussi de l'accession des femmes à une découverte différente de celle de l'homme, qui a été souvent la plus importante en nombre, en tout cas dans l'Église, une découverte d'une profondeur intérieure intime de ces textes. Et on attend qu'elle se donne et qu'elle se réalise. Je prends un autre livre d'une autre femme, qui s'appelle Catherine Chalier, qui a écrit un livre, Les Matriarches. Celle que je viens de vous lire, c'était une protestante, donc Marianne Méroz, c'est ça, Christiane Méroz, pardon, des femmes libres. Ici, Catherine Chalier. C'est le monde juif ici qui arrive avec elle et qui réfléchit également. Dans le récit biblique même, Sarah se substitue à Abraham au moment du péril. Le même texte. Désormais, c'est elle qui court tous les risques à sa place. Elle s'expose à la souffrance pour autrui, à une vulnérabilité qui, de prime abord, peut paraître insensée. Car comment admettre ce renoncement à son bonheur, à son intégrité, cette remise en cause aussi de la réciprocité dans sa relation à Abraham? Pour le bien du prochain placé plus haut que le sien, elle s'apprête à nier son état d'épouse, à changer d'identité, en se présentant comme sœur d'Abraham, comme s'il comptait plus qu'elle, que sa vie ait priorité sur la sienne. Elle accepte d'entendre son appel comme un impératif auquel elle ne peut se dérober. Le premier dialogue entre l'homme et la femme, hein, dans la Bible, c'est le tout premier, entre le même et l'autre, pose donc une rupture dans la pensée que chacun a de soi. Une rupture dans la pensée que chacun a de soi. Nous vivons toujours avec une idée de nous, une pensée de nous. C'est normal. Et donc il faut pouvoir la quitter. Poser donc une rupture dans la pensée que chacun a de soi, perdre son statut d'épouse, s'annoncer comme la sœur, entame une nouvelle modalité d'existence dont il faut méditer l'enjeu. Car ce passage de l'épouse à la sœur, d'emblée accordé, témoigne de fait d'une relation où l'autre destitue le moi de sa souveraineté, de son audace à être, pour l'assigner à une inquiétude sans limite. Ah, c'est bien dit. Nous vivons difficilement, hein, en accord avec une inquiétude. Or, c'est cette inquiétude qui nous fait vivre. Mais nous vivons l'inquiétude comme une insécurité. C'est un peu comme dans la danse. Dans une danse, le danseur, la danseuse perdent à chaque instant l'équilibre. Mais dans le mouvement même, cet équilibre est repris. Il est repris dans le mouvement. Alors que si vous arrêtez à l'instantané, le danseur ou la danseuse tombe. C'est cette extrême vulnérabilité qui est vérité et qui est l'expression même, l'image de Dieu en nous. Dieu est vulnérable. On peut faire de lui n'importe quoi. Et d'ailleurs, nous ne nous en faisons pas faute. Voici que le moi, jusqu'ici sûr de son droit à être, non pas sûr de son être, mais sûr, je dis bien, de son droit à être, sans question quant à la justice de sa place, se révèle incapable de poursuivre son train d'être, à sa manière habituelle d'être, brisé en son cœur le plus intime par la prière d'autrui, par sa demande, je te prie, de veiller sur lui. Abraham remet son sort entre les mains de Sarah. Celle-ci ne peut s'en désintéresser, même si le prix pour elle paraît humainement au-delà de ce qu'on est en droit d'attendre de la fraternité. L'asymétrie du dialogue inaugural entre l'homme et la femme, l'un passe l'autre, l'un vaut plus que l'autre, engage à penser le sens d'une subjectivité, ici féminine, habitée par le souci de l'autre, au point de renoncer pour lui à son bien le plus cher, à prendre sur elle sa souffrance, ça c'est vraiment l'image de Dieu, hein, sans espérer quelque gratification, quelque rémunération. Et il est important que cette lecture aussi soit entendue, parce qu'elle est présente dans le texte. Elle n'est pas exclusive, il ne faut pas en faire une exclusivité, mais elle est présente dans le texte. Et donc toutes ces dimensions, masculines et féminines, auxquelles nous sommes davantage ouverts aujourd'hui, et c'est une grâce, nous permet de relire ce texte avec encore plus de profondeur. Mais plus nous le lisons avec profondeur, plus notre liberté s'éduque. Plus nous osons nous lancer dans cette aventure avec Abraham, plus nous découvrons jusqu'à quel point ces textes sont enracinés dans une présence divine. Et vous avez vu que c'est à partir de là que la fraternité va s'expliciter et que Abraham va être invité par cette voix intérieure, pourrait-on dire, par cet exemple de Sarah, invité à la magnanimité vis-à-vis de son neveu Lot, qui devient son frère aussi. Le neveu devient frère, comme de sa femme épouse qui devenait sœur. Mais il y a quand même un travail du texte, et qu'il est prêt à affronter la mort pour son frère, qui a été enlevé, qui est devenu l'otage de ces rois qui l'ont emmené vers le nord. Et de nouveau, on l'emmène très loin vers le nord, et cette exagération dit justement le prix que Abraham donne à son frère. Il est prêt à risquer de même sa vie. Et on comprend alors que Melchisédek puisse venir et puisse bénir Abraham par le Dieu très haut qui créa ciel et terre. C'est comme si Abraham était vraiment recréé, c'est exactement cela qui se passe, et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Les ennemis n'étant pas seulement à l'extérieur. Les ennemis étant aussi dans le cœur d'Abraham, c'est-à-dire ce risque à prendre pour aller sauver son neveu. Alors, à partir de là, Dieu peut vraiment découvrir, je dirais que Saraï et Abraham sont prêts à découvrir ce qu'est une alliance. Une alliance, c'est une remise de soi absolue entre les mains de Dieu. Cette alliance qui est symbolisée par le mariage, qui est vécue prophétiquement par la vie religieuse ou le célibat pour le Seigneur. Et donc, cette alliance est une réalité qui nous tient tout à fait au plus profond de notre cœur. Et une alliance, c'est toujours avec une postérité. L'alliance, c'est jamais pour nous tout seul, quelle qu'elle soit. L'alliance matrimoniale est toujours ouverte à une postérité. Si on vit une intimité avec Dieu qui est symbolisée et vécue concrètement dans une intimité avec son mari, c'est pas pour la garder pour nous, c'est pour la répandre, la postérité. Et c'est cette postérité qui possédera la terre. C'est pas notre possession que nous gardons bien intacte, et qu'on ne vienne pas nous voler, mais c'est l'ouverture, je dirais l'ouverture de la porte, vous voyez ce que je veux dire. L'ouverture, il n'y a plus personne qui est étranger à ce moment-là. Donc ça va très loin. Ça va très loin. Et comment va se marquer cette ouverture, c'est-à-dire cette appartenance à un peuple qui dit qui est Dieu, qui le dit en parabole, qui dit qui est Dieu et qu'il le manifeste dans son existence, par la circoncision. Et la circoncision, c'est aussi une prise de distance. La vie que je donne n'est pas ma vie. Vous connaissez le passage de Khalil Gibran qu'on lit parfois des mariages, et dont on ne mesure pas toujours la profondeur. Nos enfants ne sont pas nos enfants. Nos enfants sont d'abord les enfants de la vie, comme il dit, la vie avec un grand V. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Nous n'appartenons pas à nos parents, donc nous ne devons pas une mainmise, une possession, nos parents. Notre conjoint ne nous appartient pas. C'est mon mari, c'est ma femme, oui, mais c'est lui. C'est elle. Et être mon mari ou être ma femme, c'est découvrir son mystère, découvrir que ce mystère est absolument insurpassable et devenir au service de ce mystère, à deux. Chacun une seule chair et ensemble. Et alors, donc cette alliance qui est marquée par la circoncision, et alors seulement, il peut y avoir un enfant de la promesse. Ismaël est aussi promesse parce que cette union est déjà symbole, est déjà représentation du don de Dieu. Tout enfant est cette présence de Dieu. Là, on ne discute pas. Ismaël a pour lui également la promesse. Mais l'enfant de la promesse, c'est-à-dire celui qui arrive jusqu'à la naissance du Messie, disons autrement, le chemin de la conception immaculée de Dieu à travers l'histoire, à travers toute la réalité de l'histoire, cela n'arrive que dans ce laisser faire Dieu dans notre vie. Ce laisser faire Dieu dans notre vie. Qui devrait être l'expression justement de ce célibat. Un célibat qui est véritablement fécond. Une stérilité, non pas simplement comme elle est montrée dans le livre, imposée par la nature, mais une stérilité qui est accueillie, comme un signe véritable de la fécondité de Dieu, d'une véritable fécondité. Et cela, même quand on est marié et qu'on a engendré des fils et des filles, c'est un passage à faire. Il y a un moment où tous nous devenons stériles. Et cette stérilité, c'est-à-dire cette incapacité ou ce non-vouloir, qui doit devenir un non-vouloir, donner la vie d'une certaine manière, est un laisser-passer Dieu avec toute la fécondité divine et avec toute la souffrance qu'elle demande. Car Dieu ne passe pas sans souffrance. Dieu est trop grand pour l'homme, et quand il passe à travers l'homme, il fait sauter toutes les limites, il fait sauter toutes les brides, tous les esclavages que nous avons accumulés. Et tous ces esclavages sont symbolisés par toutes les images successives que nous avons de Dieu. Et les images doivent se casser pour que Dieu puisse exister. Ce que j'implore souvent, c'est l'aide de Dieu, c'est la consolation de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la compassion de Dieu. J'implore des qualités de Dieu que je désire et que je sublime. Mais Dieu, est-ce lui que je désire ? Ou bien sont des choses qui vont m'être utiles, hein, comme Leibowitz le disait encore hier dans la vidéo. Est-ce que c'est l'aide de Dieu que je veux ? Ah, c'est pour moi. C'est moi que je cherche. Ou bien est-ce que c'est Dieu lui-même ? Quand je cherche Dieu, lui-même, je deviens libre. Mais je suis extrêmement vulnérable. Malheureusement, quand je me sens vulnérable, je deviens agressif. Il y a des gens qui ont le talent de nous blesser et nous devenons vis-à-vis de ces personnes plus agressifs dans nos communautés, dans nos familles, dans nos partenaires. C'est intéressant cela. Pour qui, vis-à-vis de qui suis-je le plus agressif? Et donc c'est une manière de découvrir, de prendre distance, de découvrir, tiens, c'est à moi que ce discours s'adresse. Si je suis agressif vis-à-vis de telle personne, c'est parce qu'elle me dit probablement quelque chose que je ne veux pas voir, dont j'ai peur. Oui, Adèle ? Oui, exactement. C'est toujours le même chemin. Toujours. Nous le retrouvons partout, partout, partout dans la Bible. Mais j'aime bien vous montrer qu'il est depuis le commencement. Et que justement, les commencements dans la Bible, tous les commencements sont toujours d'une extrême importance parce qu'ils donnent les clés de la suite. On peut évidemment utiliser la suite pour montrer comment ils étaient dans le commencement. C'est pour ça que j'ai pris le Cantique des Cantiques. Mais pas pour rien que le Cantique des Cantiques, parce que c'est relation homme-femme, précisément. Et justement, dans le Cantique des Cantiques, comment le bien-aimé appelle-t-il sa bien-aimée, Achotechallah, ma sœur fiancée. Il dit jamais mon épouse. Jamais. Ma fiancée. Pas ma fiancée, Kalati, mais Kala. Achoti, ma sœur fiancée. Et beaucoup, même les pères de l'Église, font le rapprochement entre la sœur, et la sœur fiancée dans le Cantique des Cantiques, et Abraham et sa mère. Et vous voyez, on les retrouve aujourd'hui, tout cela. Alors que les pères de l'Église avaient déjà perçu toutes ces réalités-là. Et alors, il y a quelque chose qui doit être vaincu en nous. c'est la sodomie. La sodomie, hein, le péché de Sodome, c'est-à-dire le totalitarisme qui s'exprime souvent dans une certaine forme d'adoration du même, de retour au même. C'est le « je me moi ». Je me retrouve dans l'autre qui devient finalement un substitut du moi et que je mets à mon service. Je me moi, ça dit bien là, les choses. Et la plupart du temps, c'est notre plus grand esclavage. Et donc, il faut pouvoir sortir aussi de cette ville et la brûler. La brûler. Parce que ce je me moi est une autodestruction. Je n'aime pas dire égoïsme, mais c'est un égocentrisme que nous vivons tous. Tout ce qui est là présent, nous le vivons. Et nous le vivons sociétairement. Nous nous aidons les uns les autres, c'est ça Sodome. Pierre-Emmanuel a écrit un beau livre justement, où il réfléchit là-dessus, qui s'appelle Sodome, justement, un beau poème. Mais c'est vraiment de la poésie, mais il part de ce texte. Sodome est en nous. Et Sodome doit être détruit par le feu du ciel. Bien sûr que c'est une autodestruction, mais cette autodestruction doit devenir un laisser détruire par le feu du ciel, c'est-à-dire par Dieu lui-même. Laisser brûler, le feu purifie. Et il faut se sauver. Se sauver sans caler. Si je cale, je deviens du sel. Si je me sauve, où vais-je trouver refuge? Finalement, peut-être bien chez Abraham. C'est peut-être dans sa vie, dans son foyer, dans son existence, que je vais trouver une force pour aller au-delà. Alors, quand Isaac naît, pourquoi renvoie-t-on Agar et pourquoi renvoie-t-on... Il y a encore une séparation là. Et on voit que c'est très difficile pour Abraham de laisser partir Ismaël parce qu'il y est attaché. Et de laisser partir Agar. La première fois, il lui dit, « Ah, ta servante est entre tes mains, fais ce qui bon te semble. » Et quand fais ce que bon te semble, hein, entre femme et femme, homme et homme, la jalousie. La jalousie reprend ici. Mais qui va prendre la décision de couper le cordon ombilical? C'est Abraham. Mais il donne des provisions pour la route à Agar. C'est-à-dire, il la coupe et en même temps, hein, par cette eau qu'il lui donne, c'est comme une promesse. Il la laisse aller à la rencontre de Dieu. Et c'est effectivement ce qui va se passer. L'ange de Dieu va la rencontrer et va lui donner un puits d'eau, de la réserve. Donc laisser aller son fils et éventuellement soi-même, nous sommes parfois le fils de nous-mêmes ou la fille de nous-mêmes, laisser aller sa fille à la grâce de Dieu, à la garde de Dieu. On dit souvent, oui, mais c'est de la démission. Parfois, c'est de la démission. Pourquoi tu n'interviens pas? Il y a quelque chose à faire. Es-tu bien sûr que c'est en tirant les pétales de la rose qu'elle va s'ouvrir? Est-ce bien cela? C'est peut-être en lui donnant un peu d'eau, comme l'a fait Abraham. C'est peut-être comme ça qu'elle va s'ouvrir. C'est-à-dire, être tellement confiant dans l'autre que cette présence de Dieu dans l'autre va finalement arriver à émergence et fleurir. Voilà, alors nous sommes à peu près dans la situation où il faut pour accueillir la troisième séparation. Séparation de, première séparation de son milieu familial, de son passé, puis séparation de son présent, c'est-à-dire de ses deux femmes, et encore une séparation de son avenir. Je veux aussi mettre la main sur l'avenir. Et ça, c'est de nouveau la convoitise. Au lieu de recevoir ce qui m'est donné comme promesse, je veux le retenir. Le retenir. Ici, j'aurais dû le faire pour tous les autres, mais je n'avais pas une traduction, j'ai pas eu le temps de faire une traduction littérale. Mais ici, la littéralité, comme généralement la littéralité, est toujours significative. Donc il faut revenir, la plupart du temps, au texte. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Sinon, je dirai de mémoire des choses qui sont importantes. Nous prenons donc le chapitre 22e. Après ces événements. Le « après ces événements » dit qu'il y a une coupure avec le reste, mais en même temps, le « après ces événements », je veux dire, lisez un peu cela dans la suite. C'est rattaché à ce qui précède. Il arriva que Dieu éprouva Abraham. Ça, c'est dit pour le lecteur. Abraham ne sait pas que c'est une épreuve. Mais nous, nous le savons, puisque nous le lisons comme ça. L'Esprit envoyé à Jésus au désert et il fut tenté. L'Esprit envoie Jésus pour être tenté. La tentation, l'épreuve, c'est généralement le même mot, la tentation, l'épreuve, est une chose excellente. Elle nous permet d'exister et d'accéder éventuellement à une liberté plus profonde. Mais nous avons peur de l'épreuve, peur de nous voir dans l'épreuve,